Le titre du message aujourd'hui, le troisième jour. On va tourner dans Osée, chapitre 6, les versets 1 à 3. Il semble que la vie des serviteurs de Dieu suive un certain pattern, un certain patron, un modèle. Il y a comme un moule dans lequel il nous faut tous passer. Si nous voulons ressembler à Jésus. Il y a un modèle parfait, le modèle de Christ. Nous sommes comme reproduits à l'image de ce pattern-là, de ce patron. Comme un patron de couture, un patron, un modèle que Dieu nous sculpte à l'image de Jésus-Christ. Et il y a comme dans l'Écriture ce modèle des trois jours ou des trois temps qui revient constamment. Osée 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le troisième jour, il nous relèvera. Le mot « relever », c'est le même mot que « résurrection ». Le troisième jour, il nous ressuscitera. C'est de ce verset que Jésus parlait constamment en disant, il est écrit que le troisième jour, le Fils de l'homme va ressusciter d'entre les morts. Le troisième jour, il nous relèvera, il nous ressuscitera. Il semble que ce trois jours, ce délai de trois temps, de trois périodes de temps, revient constamment pour marquer la vie des serviteurs de Dieu. Il y a comme trois grandes étapes dans la formation de ces serviteurs. On pourrait dire qu'il y a le premier jour, la première journée, le premier temps, qui est un temps de grande extase, de grande révélation à propos du plan de Dieu pour nous et de son amour si généreux à notre égard. C'est le temps où la grâce de Dieu manifeste sa présence, où il y a un germe déposé dans notre cœur. Il y a une semence, la parole de Dieu, qui est envoyée d'en haut pour créer avec nous ce pourquoi nous avons été destinés à être. La première journée, c'est le temps où Dieu révèle son plan pour nous. On le voit dans la vie de Joseph. À un moment donné, Dieu lui a donné des songes. Deux songes qui manifestaient l'appel que Dieu avait mis sur la vie de Joseph. C'est un moment de grande excitation pour Joseph. Il était tellement excité qu'il a couru le dire à ses frères, à son père, et cela lui a valu des persécutions. C'est la même chose qui est arrivée dans la vie de David. Le prophète Samuel est envoyé par Dieu, oindre David, au milieu de ses frères, dans la maison de son père. Et là, devant tous, Samuel le oint avec la corne d'huile pour paître son peuple. C'était pour David un moment de grande extase, un moment de grande révélation. Dieu se révélait à lui. Dieu se manifestait. Dieu venait de déposer en lui une semence, un germe de l'onction à venir, du salut qui devait se manifester au travers de lui. C'est la même chose qui est arrivée à Moïse. Étienne nous dit dans Actes chapitre 7 que lorsque Moïse a tué l'Égyptien qui le cachait en terre, il pensait que ses frères juifs reconnaîtraient que Dieu l'avait établi comme libérateur sur son peuple. Moïse avait reçu comme en dedans lui cette révélation qu'un jour il libérerait son peuple. Cela le rendait joyeux, heureux, et il pensait que ses frères comprendraient cet appel-là. Malheureusement, lui aussi, il a dû fuir devant Pharaon pendant 40 ans, devant la colère de Pharaon, qui a su que Moïse avait tué un Égyptien. Ce premier jour, qui est un moment de grande extase, de grande révélation, est toujours suivi par un deuxième jour, une deuxième période, qui au contraire du premier jour est un moment de grande épreuve, où cette semence que Dieu a mise en terre doit comme mourir, doit passer dans un temps de détresse, de noirceur, de ténèbres, un temps où elle est testée. Cette semence semble, pendant cette deuxième période-là, ce deuxième jour, semble mourir. Il semble que ce soit tout le contraire de cet appel, de cette semence, de cette parole qui a été prononcée prophétiquement sur nous, qui s'accomplit. Il avait été prophétisé, il avait été donné par un songe à Joseph, que ce serait lui qui serait le sauveur, le gouverneur de ses frères. Mais le deuxième jour, ce fut tout le contraire. Ses frères ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans une fosse et ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Ce fut tout le contraire de cette parole de prophétie qui avait été prononcée dans ses songes. C'est le contraire qui s'accomplit. La semence doit d'abord mourir. C'est la deuxième période, c'est le deuxième jour. Ce même pattern, ce même patron revient constamment dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. David, lui aussi, dut passer la même chose. Après cette période où Samuel est venu le oindre, et là où il a tué Goliath, le géant, David a dû commencer à fuir devant Saül qui s'est mis à vouloir le tuer. Saül qui a reconnu que l'onction était sur David et qui, par jalousie, a voulu le tuer. Et là a commencé pour David une longue période de plusieurs années où il a dû fuir pour sauver sa vie. L'épreuve, la détresse, le désert, la solitude, l'humiliation, l'opprobre, le rejet, le mépris, la fuite devant l'ennemi. Moïse aussi a dû vivre cela pendant 40 ans. 40 ans dans le désert à fuir la fureur de Pharaon pour sauver sa vie. 40 ans où il attendait la réalisation de la promesse que Dieu lui avait faite, de cette semence que Dieu avait mise dans son cœur, cette semence prophétique d'un appel à venir, d'une onction à venir. Pendant 40 ans, pour Moïse, ce fut le contraire qui se réalisa. Ce fut le désert, ce fut une période de souffrance, de solitude. Au contraire du salut, de la délivrance de ses frères, il était lui-même obligé de fuir. Ses frères israélites demeuraient dans l'esclavage, loin de la délivrance, loin du salut que Dieu avait promis. C'est toujours la même note d'interrogation qui commence à poindre dans le cœur de ceux que Dieu a appelés, de ses bien-aimés, qui passent cette deuxième journée d'épreuve. Il y a toujours une note d'interrogation, comme si Dieu nous abandonne, comme si Dieu nous oublie. Mais Dieu n'est pas en train de nous oublier. Cela fait juste partie de son pattern, du patron, du modèle que nous devons suivre. Le même pour tous. Ce temps de solitude, ce temps de désert engendre en nous beaucoup de questionnements, engendre en nous des craintes, des doutes. Psaume 89 au verset 39, juste avant le psaume, les premiers versets parlent de l'onction que David a reçue. Ça parle que l'Éternel l'a oint, que Dieu avait promis de l'élever au-dessus de ses frères, que Dieu avait promis de manifester son salut, sa gloire au travers de David. Et là, le psaume 89, verset 39, ça dit, « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne. » Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Au verset 43, tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Verset 45, tu as mis un terme à sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Un grand questionnement s'élève dans la vie de ses serviteurs. Pourquoi? Il semble que ce soit le contraire qui s'accomplit. La parole que tu as prononcée sur nous ne se réalise pas à première vue. Dans ce deuxième jour, dans cette deuxième période, c'est un temps de mort. C'est le temps où la semence doit mourir. C'est un temps où Dieu fait autre chose. C'est comme si Dieu y voit l'appel qu'il a mis sur notre vie. Il voit cette grande onction de libération qu'il peut mettre sur ses serviteurs. Mais Dieu est préoccupé par une première chose en nous. Dieu ne regarde pas seulement au but, à la finalité. Il regarde comment cette œuvre, cette prophétie qu'il a dit sur nous, peut s'accomplir de la manière la plus merveilleuse, la plus parfaite. Dieu ne regarde pas aux circonstances et au temps présent. Il a toujours en vue ce qu'il a promis, l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole qu'il a prononcée sur nous. Mais le plus important pour Dieu, c'est de débuter son œuvre là où il est le plus important de le faire, c'est-à-dire dans le cœur, dans notre cœur, dans le cœur de ses serviteurs. Il doit d'abord former, transformer le cœur. Le cœur de ses oints, qui n'est pas en mesure de supporter l'onction qui s'en vient. Alors, Dieu met ce vase dans une période de sécheresse. Il le met au four. Il met cette graine dans la terre, dans une noirceur complète. Il semble qu'elle meure, qu'elle n'est plus là, qu'il n'apparaît plus rien pendant plusieurs jours. C'est cette période, ce deuxième jour, où Dieu forme l'intérieur. Pas l'extérieur, il forme ce qui est caché dans le cœur. Il forme un cœur doux et humble en nous. Un cœur patient et compatissant. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, comme nous dit l'apôtre Pierre. Ça, c'est pas de la petite besogne pour Dieu. C'est un travail difficile. C'est un travail ardu. Ça lui prend beaucoup de patience à notre égard pour former en nous un cœur doux et humble. Dieu manifeste sa patience envers nous, sa bonté. Il n'est pas en train de manifester sa colère comme les circonstances semblent nous le dire. Si on regarde juste aux circonstances extérieures, on pourrait penser que Dieu se met en colère contre ses serviteurs. Mais il n'en est rien. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est juste qu'un temps de formation du cœur. Dieu met d'abord son onction dans le cœur. Il installe d'abord ce qui est glorieux dans le cœur, caché dans le cœur. La vie de Christ est d'abord cachée en nous. Et c'est cela qui doit être formé, transformé. C'est pourquoi de grands hommes de Dieu sont formés d'abord au travers de grandes épreuves et de grandes souffrances. La vraie grandeur se découvre d'abord dans le cœur, pas dans les choses extérieures, dans le cœur. Jésus a été le modèle parfait et Jésus a suivi lui aussi ce pattern-là, ce patron, ce modèle. Jésus n'a pas fait exception. On peut lire dans Ésaïe 53, à partir de versets 2 et 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est la vie de Jésus durant sa jeunesse. Ni beauté, ni éclat, dédaigné, méprisé, rejeté. Il s'est élevé comme une faible plante, un rejeton, un petit germe qui sort d'une terre desséchée. Homme de douleur, et habitué à la souffrance. L'apôtre Paul va nous dire que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quand, toute sa jeunesse, il a appris cette obéissance par les choses qu'il a souffert, parce qu'il a passé beaucoup d'épreuves lui aussi, beaucoup de souffrances. La vie de Jésus ne fait pas exception. Lui aussi, la première journée, le premier jour, ça a été une journée de grande extase. On le voit, les prophéties qui ont été dites sur Jésus étaient des prophéties glorieuses. Luc, chapitre 2, versets 29 à 33. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est la prophétie que le vieil homme Siméon disait sur l'enfant Jésus. « Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. » salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Quelle belle prophétie sur un enfant, sur Jésus. Luc chapitre 2, le verset 9 à 14. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, autour des bergers. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Quelle belle prophétie sur Jésus! Un simple enfant! Un petit enfant. Et pensez-y, ce salut si merveilleux, ce salut si glorieux, n'allait pas être apparent pendant 30 ans. Rien de ce salut n'allait paraître à l'extérieur. Il n'y a pas eu de guérison pendant 30 ans, il n'y a pas eu de gloire pendant 30 ans. Mais le salut de Dieu se manifestait dans le cœur de Jésus, dans la formation de Jésus. Jésus a dû, lui aussi, grandir comme n'importe quel bébé, c'était ça le salut de Dieu. À première vue, si on regarde juste les circonstances, Marie aurait pu dire, « Ça, le salut de Dieu, il vient de me faire un petit enfant. » Marie aurait pu dire, « C'est ça le bébé Jésus, il vient de salir sa couche, il me réveille la nuit. » Il faut fuir en Égypte à cause de lui. C'était comme le contraire de la prophétie. Le salut glorieux de Dieu. Mais il faut fuir pour sauver notre vie. Mais c'est ça. C'est le pattern que Dieu dresse sur tous ses serviteurs. Jésus, premièrement, et tous ses bien-aimés qu'il a appelés à sa suite. On suit le même pattern. Nous sommes appelés à passer dans ce deuxième jour qui est une période de formation, de transformation, où dans la détresse, dans l'épreuve, dans l'humiliation, notre cœur est formé. La sagesse de Dieu descend profondément en nous. Et ça, c'est le pattern de ses bien-aimés. C'est pas le pattern de ses aimés. Mais Salomon, ça dit que Salomon était aimé de l'Éternel. Salomon eut une onction dès le début de sa vie, de son ministère, une grande sagesse. Une très grande sagesse est venue sur lui. Mais au contraire de David, il n'a pas été formé, lui, dans le désert. Il n'a pas été formé, lui, au travers de la souffrance. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la fin de sa vie? Ça dit que le cœur de Salomon s'est détourné de l'Éternel. Il a commencé à faire des autels à d'autres dieux. Ça dit aussi que Salomon commençait à opprimer certains du peuple de Dieu. Il a voulu tuer celui que Dieu appelait à remplacer. Salomon était devenu un oppresseur, un idolâtre. Pourquoi? Parce que son cœur, au contraire de son père David, n'avait pas été formé dans ce désert, dans cette période de transformation. Et à cause de cela, la vie de Salomon, à la fin, a ressemblé étrangement à la vie de Saül, du premier roi d'Israël, qui est devenu lui aussi meurtrier, idolâtre, et que Dieu a rejeté. Et on voit sur Salomon, Dieu a failli le rejeter lui aussi. La parole nous dit bien, clairement, « À cause de David, ton père, je vais te laisser une tribu à ton fils, Roboam. Je vais laisser une tribu, pas à cause de toi, à cause de ton père David, du bien-aimé. » David, ça veut dire bien-aimé. À cause du bien-aimé qui, lui, avait été façonné dans le désert, ce que Salomon n'avait pas reçu. On voit l'importance de passer dans cette période-là. Une bénédiction trop vitement acquise, trop promptement acquise, nous dit le proverbe, ne sera pas bénie par la suite, ne sera pas bénie quand viendra la fin. C'est ce qui est arrivé avec Salomon. Mieux vaut passer dans le désert de la transformation pour que cette parole, cette prophétie qui a été mise sur nous par Dieu lui-même s'accomplisse glorieusement, selon le pattern, selon le modèle tracé par Jésus. Premier jour, une journée de grande révélation, de grande extase. Deuxième jour, une journée de mort, d'humiliation, de souffrance, pour former le cœur du serviteur. Mais il y a une troisième journée, cependant. Il y a un troisième jour, comme on l'a lu tantôt dans Osée, c'est-à-dire, Osée chapitre 6, il y a le troisième jour où Dieu manifeste ce pourquoi il a envoyé sa parole, où il manifeste son salut, où il manifeste son onction, où ce qu'il a dit se réalise, où le salut qui était caché à l'intérieur, où cette promesse qui semblait seulement virtuelle devient réelle. C'est le temps de Dieu, c'est le troisième jour, le jour de la résurrection, où on ressuscite de la mort, où on revient du désert, où la gloire de Dieu se manifeste. Ce troisième jour-là est constamment, il y a plein d'images dans la parole, de ce troisième jour qui manifeste le salut, la consolation de Dieu. Jean chapitre 11, versets 3 à 6. Les deux sœurs de Lazare, on voit l'histoire de Lazare. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marie et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. C'est comme une image ici aussi. La gloire de Dieu devait se manifester, mais il y avait comme une image deux jours. C'est le troisième jour que la gloire de Dieu doit se manifester. Jean chapitre 16, à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples diront entre eux, « Que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. » Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. » Remarquez, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, comme une période de mort, de ténèbres, d'obscurcissement. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Le troisième jour, vous me verrez à nouveau. Verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. On a une image ici encore, de la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant est conçue entre un homme et une femme dans un moment de grande extase, de grande jouissance. C'est le premier jour. La semence est portée. Et l'enfant vient, il est conçu. Mais on voit que pendant 9 mois, on ne verra pas l'enfant encore. L'enfant est là, il grandit, il est bien vivant, mais on ne le voit pas à l'extérieur. Il n'y a rien d'extérieur, sauf un petit ventre qui est arrondi, qui paraît. Mais l'enfant est là. Mais cette période, il y a eu ce premier jour où il est conçu, le deuxième jour, c'est la période où l'enfant est caché dans le ventre de sa mère. Cette période où il y a beaucoup de souffrance pour la mère. L'accouchement va finir par une période l'apogée d'une souffrance, une grande souffrance. C'est le deuxième jour. Ça parle de cette période où la semence de Dieu doit grandir en nous jusqu'à ce qu'elle enfante ce pourquoi elle a été envoyée. Et là vient le troisième jour, la troisième période. Le troisième jour, c'est le jour où l'enfant sort, où la tristesse se change en joie, où l'on voit enfin extérieurement cet enfant, où l'on voit enfin le salut de Dieu se manifester, l'onction qui avait été promise se manifester. C'est le troisième jour. Cette image de trois périodes, de trois temps, de trois jours, revient constamment dans les Écritures. Nous n'avons pas le choix, il nous faut suivre ce pattern. suivre ce modèle tracé par Jésus. Ésaïe chapitre 37, les versets 30 à 32. Que ce soit un signe pour toi, on a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Trois jours, trois périodes, trois années. Premièrement, le grain tombé. Premièrement, c'est la semence qui tombe en terre. C'est la semence qui vient de notre cœur, un moment de grande extase, mais ensuite, comme cette parole que l'apôtre Jean a reçue de l'Apocalypse, c'est comme ce livre que l'ange lui a dit de manger, il a été doux dans sa bouche, mais oh, il s'est devenu amer dans ses entrailles. La parole de Dieu engendre une souffrance. La deuxième période, la seconde année, ce qui croit de soi-même. Est-ce que la semence croit à l'intérieur? Elle grandit à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire dans un lieu de désert, dans un lieu de solitude, dans une période d'épreuve, d'humiliation. La souffrance produit un germe, une transformation de cœur, l'obéissance à Christ. C'est la deuxième période, ce qui croit de soi-même. Cette grain va grandir à l'intérieur, caché. Rien d'apparent, rien d'extérieur, rien de glorieux. Mais la troisième année, c'est le semence. C'est la récolte. C'est le salut de Dieu qui se manifeste. La troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des fruits, vous en mangerez le fruit. La troisième jour, la troisième année, la troisième période, le salut de Dieu, prophétisé par Dieu, arrive, s'accomplit. Il y a une période pour manifester le salut de Dieu. Il y a un temps où le salut de Dieu doit se manifester. C'est le temps de Dieu, pas le nôtre. Nous, on voudrait que le salut se manifeste dès la première journée, que la semence, que la parole est venue, que la prophétie est tombée sur nous, on pense que le salut va se manifester. Non, ce n'est pas ainsi. Dieu a prévu qu'il y ait cette période de formation du cœur entre la réception de cette parole et son accomplissement et sa réalisation. Ésaïe, chapitre 49, et versets 1 à 8. On va regarder une dernière image de ces trois jours. Il, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. C'est une vérité pour tout enfant de Dieu. C'est une vérité pour Christ, premièrement. Cela parle de Christ, premièrement. Mais c'est une vérité pour tout enfant de Dieu, pour tout bien-aimé. L'apôtre Paul dit que lui-même il était choisi avant sa naissance. Jérémie, la même chose. Il y a un appel qui est mis sur notre vie. Et à un moment donné, Dieu révèle cet appel. Cela produit en nous une grande joie. Au verset 2. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. » Mais remarquez le verset 4. Ça, c'est le serviteur qui parle. Les premiers versets, c'est comme l'appel que Dieu a mis sur lui. Wow, c'est glorieux. Dieu a dit cela, c'est glorieux. Mais là, le verset 4, c'est le serviteur qui dit ses sentiments, ce qu'il ressent à l'extérieur, en dedans de lui, par rapport à la période de souffrance qu'il passe. Et moi, j'ai dit au verset 4, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. C'est comme ça qu'on se ressent. Souvent, à l'intérieur de soi, quand on passe cette période de transformation vide, où on semble qu'on est mis sur la tablette, on est comme oublié, on s'imagine qu'on est oublié de Dieu. Ce n'est pas le cas. Même on peut penser que Dieu est en colère contre nous. Ce n'est pas le cas du tout. Dieu est juste en train de nous former à l'image de son Fils. Mais ces sentiments-là vont venir. C'est normal. Mais il faut marcher par la foi. C'est pour ça que le serviteur dit ensuite, « Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Ma récompense est auprès de mon Dieu. » Il ne faut pas perdre la foi dans ce temps de détresse, de temps d'épreuve. Il ne faut pas perdre la foi, il faut savoir et reconnaître que ce temps d'épreuve est nécessaire et qu'il est en vue d'une promotion, qu'il est en vue de la réalisation de ce que Dieu a dit, car ce que Dieu a dit va se réaliser. Verset 5, on continue à lire. « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. » Remarquez, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Tout bien-aimé va passer par cette période de mépris, de rejet. C'est normal. Ça fait partie de la formation. Nous avons tous à passer dans cette période où on est l'esclave des puissants. On est comme soumis à des hommes pour apprendre l'humilité, la douceur, la patience, la sagesse d'en haut, douce et paisible, qui descend dans le cœur. C'est le temps où les choses précieuses de Dieu, qui ont vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, sont installées et mises dans notre cœur. Dieu fait son œuvre en nous. C'est pour ça que ça dit, ça continue au verset 7. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Au jour du salut, le troisième jour s'en vient. Le jour du salut, le jour où la grâce de Dieu va se manifester à l'extérieur. Je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ça, c'est le salut de Dieu, le troisième jour. Le salut que Dieu a promis de manifester au travers de Jésus, au travers de nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. C'est le salut que Dieu a promis de manifester au travers de nous. C'est écrit pour nous. Et Dieu a son plan pour nous. Ne perdons pas courage s'il nous faut passer, si présentement nous sommes dans cette période de transformation du cœur. Ne perdons pas courage. Dieu a promis que son salut viendrait au temps opportun. Le jour du salut, le troisième jour, est proche. Le jour de la consolation, où Dieu va manifester sa grâce. Où Dieu va manifester extérieurement ce qu'il a promis. Un salut puissant, victorieux, la lumière des nations, qui va ramener son peuple à lui, qui va réveiller son peuple, qui va réveiller l'esprit de son peuple, qui va réveiller une crainte en dedans de son peuple. Dieu a promis ce jour où qu'il manifestait son salut. Dieu a des promesses merveilleuses, glorieuses pour chacun de ses enfants. N'oublions pas ce qu'il nous a dit, sachant que l'accomplissement de ce qu'il nous a dit est proche. Le lait de ses consolations est à la porte pour manifester ce salut promis. Réjouissons-nous de ce salut. Ésaïe 49, verset 13. Il dit, « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez un cri de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. » Cette période de deuxième jour nous avait rendus malheureux. Nous avons perdu comme le bonheur, la joie extérieure. Parce que c'était une période de souffrance, d'épreuve. Mais Dieu dit, j'ai pitié de mes malheureux. Je m'apprête à consoler mon peuple. Verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Des fois on dit ça à Dieu, Seigneur, tu m'as-tu abandonné? Tu m'oublies-tu? Et qu'est-ce que Dieu répond au verset 15? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Je suis en train de vous allaiter. Vous allez être de l'aide, mais consolation. Je suis en train de vous former à l'intérieur de moi. Suis-je en train de vous oublier? Pas du tout. Dieu n'est pas en train de nous oublier. On continue à lire au verset 15. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu a promis. Il ne change pas. Il est fidèle. Le jour de son salut, le troisième jour, le jour de la résurrection, du relèvement, est proche à la porte. Dieu s'apprête à accomplir sa promesse. Manifester extérieurement son salut, le lait de ses consolations se répandent autour de nous. Manifester ce salut. Verset 17, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ces 700 000 viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Ça, c'est le salut de Dieu. C'est le salut magnifique de Dieu. Au verset 21, « Et tu disais en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? » Les sentiments qu'on a dans le cœur ne doivent pas nous faire perdre de vue la promesse. Rappelons-nous, ne regardons pas aux circonstances extérieures, regardons à la promesse. Regardons à ce qui s'en vient. Regardons ce salut qui va se manifester et qui va magnifier la promesse que Dieu a dit sur nous autres. Dieu finit Isaïe 49 en disant au verset 25, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin des tyrans lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. » Amen.